travail, oui, très important.
À suivre sur RCF, votre magazine sur ma route.
RCF, il est 17h.
Sur ma route, Claire Leparc.
Alors bonjour, bienvenue, on est sur le port du Bonneau, c'est un port tout en pierre, un port amarré avec les bateaux qui s'échouent et là ils viennent juste de se déséjouer parce que la marée est en train de monter. Donc voilà, on est à 5 minutes de chez moi et c'est un petit lieu de paradis. Je suis Damien Seguin, je suis skipper professionnel. Et voilà, j'aime naviguer un peu sur tous les types de bateaux, que ce soit les derniers prototypes en carbone ou les vieux bateaux en bois. C'est un peu la magie ici qu'on a dans le golfe du Morbihan.
Merci à vous Damien Seguin d'avoir accepté de jouer le jeu de cette balade portrait ici sur le port du Bonneau dans le Morbihan. Pour commencer tout simplement, pourquoi ici en particulier?
Parce qu'on est vraiment très proche de chez moi, j'habite à 5 minutes à Auray. Et ça donne sur la rivière d'Auray qui passe ici par le Bonneau et qui ensuite vient alimenter le golfe du Morbihan avec voilà, ces fameuses 365 îles, autant d'îles que de jours dans l'année. Et voilà, c'est un endroit qui est assez magique. On peut s'y promener sur les chemins douaniers et puis naviguer aussi. Et c'est assez sympa parce que il n'y a pas deux jours qui se ressemblent vraiment avec la luminosité, les marées qui changent. C'est à chaque fois une vraie découverte.
Et là, justement, est-ce qu'on peut décrire un peu, faire la carte postale à nos auditeurs?
Ouais, ben là, on est dans le port qui est tout en vieille pierre. Hein, qui est, là, la marée est en train de monter. Il y a des vieux gréements qui ont fait la semaine du golf qui sont encore amarrés devant. Et voilà, c'est assez calme, c'est paisible. Il y a des arbres au bord.
Ça vous donne envie de prendre le large?
Là, non, comme ça, non, ça donne envie d'aller se promener sur les bords. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire.
Allez, on y va, on va arpenter un peu ces sentiers, puis on va parler de vous, hein, évidemment, Damien Seguin, de cet endroit, mais aussi de vous, de votre parcours, de vos engagements, de vos actualités, parce qu'il y en a. On a déjà pu en parler un petit peu sur nos ondes, mais on va aller peut-être un petit peu plus loin. Pour commencer, parlons un peu de votre enfance. Ah, vous n'êtes pas né en Bretagne, hein. Vous êtes plutôt un montagnard, si on peut dire ça comme ça.
Ouais, je suis un vrai breton d'adoption. Mais bon, c'est un peu la caractéristique du breton, il vient un peu de partout. Effectivement, moi je suis né à la montagne, à Briançon, parce que voilà, mon papa était guide de montagne à Chamonix. Ma maman était infirmière à Briançon. Et voilà, les trois enfants, je suis l'aîné, moi. On est tous nés à Briançon. Ensuite, on a fait un passage par le midi de la France, Vaison-la-Romaine plus particulièrement, qui est très jolie aussi comme petite ville. Avant de partir en Guadeloupe, voilà, moi je suis arrivé en Guadeloupe, j'avais 10 ans et jusqu'à ma première année de fac, on a habité là-bas et c'est là que j'ai découvert la voile parce qu'on imagine bien que c'est pas à Briançon que j'ai appris à faire du bateau et voilà, ça a été une vraie rencontre avec le milieu marin, le milieu nautique, la voile en particulier et ce sport-là qui était au début un sport que je pratiquais pour faire ça avec mes copains, puis on est bien dans l'eau hein, quand il fait chaud aussi. Et ben c'est devenu une vraie passion, voilà quelque chose dans lequel je me sentais libre, dans lequel j'arrivais aussi à dépasser mon handicap. Et voilà, donc et puis de fil en aiguille, comme je suis quand même issu d'une famille de compétiteurs. Eh ben voilà, je suis devenu un compétiteur moi aussi.
Et qu'est-ce qui vous a plu particulièrement dans cet élément-là, la mer, vous qui avez grandi, enfin en tout cas qui êtes né à la montagne, qu'est-ce qui vous a touché particulièrement, bon vous le disiez, mais pour aller plus loin?
Dans le monde de la mer, c'était ce sentiment de liberté, d'être en lien avec la nature et puis de vraiment se sentir à la merci des éléments aussi, voilà, celui qui estime qu'il est le plus fort, qui va dompter les éléments, bah en fait, il se plante complètement, il faut composer avec plutôt qu'autre chose. Et la voile, c'est aussi un sport mécanique. Et par ce sport mécanique, en fait, j'ai réussi aussi à compenser, moi, le fait que j'avais qu'une seule main sur le bateau. Et ça m'a beaucoup plu parce que ça m'a permis de naviguer finalement avec mes copains et puis ensuite contre eux dans la régate. Et voilà, c'est magique.
Ouais, parce que on le rappelle, vous êtes né sans main gauche.
Ouais, je suis né sans main gauche. C'est ma particularité. Je suis C'est ce qu'on appelle une agénésie congénitale. Donc, je suis né vraiment avec ce handicap-là. Mes frères et sœurs ne sont pas du tout atteints par ça. Mais voilà, c'est fait partie de ces gens comme ça qui naissent avec une différence particulière. C'est plutôt le regard des gens, ce que les autres peuvent nous renvoyer, qui nous rend handicapés. Et moi, j'ai eu la chance de grandir dans une famille où finalement, j'ai été élevé comme mon frère et ma sœur, sans faire vraiment de différence, sans que mes parents me soient sans arrêt sur mon dos en disant « fais pas ci, fais pas ça, t'y arriveras pas » ou « attention ». Ils m'ont laissé faire, j'ai eu ce droit à laisser, ce droit à faire des erreurs, et comme ça je me suis construit, j'ai construit ma propre façon de faire les choses. Voilà, ça peut aller de la façon de faire du vélo à une main, faire ses lacets de chaussures à une main, enfin bon voilà, J'ai eu le droit à faire ces essais et erreurs-là, et ça m'a permis de me construire, de construire mon schéma corporel. Alors bien sûr, ça n'a pas tous les jours été simple, et la période la plus difficile, ça a certainement été mon adolescence. C'est là où on a le regard des autres qui est un peu plus pesant, et puis voilà, les enfants souvent ne sont pas très gentils les uns envers les autres à cette période-là. Et d'ailleurs, c'est la seule période de ma vie où j'ai porté une prothèse pour cacher mon handicap. Et puis je l'ai enlevé quand je suis rentré au lycée. Je ne l'ai jamais reporté depuis.
Parlez-nous peut-être de l'influence de votre père, de votre mère aussi peut-être. Un papa guide de haute montagne. Forcément, vous qui êtes proche aujourd'hui de l'élément mère, j'imagine que d'avoir grandi quand même avec ce papa notamment, et cet élément-là aussi, la montagne, qui pareil, est quand même un élément... assez dur, c'est pareil, ça laisse pas trop de place au hasard. Ça, tout ça, forcément, ça construit quelque chose.
Oui, c'est pas un hasard si je me suis retrouvé sur un bateau à parcourir le monde aussi, à faire de la compétition, parce que voilà, mon papa avait ce goût déjà un petit peu de l'aventure, du rapport avec la nature, de son environnement. C'est sûr que la mer et la montagne, c'est souvent des endroits qui sont très éloignés, mais au final, on y retrouve la même, je pense, philosophie de vie, de composer avec les éléments comme ils sont, et puis de se débrouiller avec. Et voilà, moi j'ai grandi à côté de parents qui étaient sportifs, et je me souviens pas qu'on ait passé beaucoup de week-ends à la maison à s'ennuyer. On était toujours partis avec le camping-car sur des triathlons, sur des courses de ski de fond quand on était plus jeune. Donc j'ai grandi dans cette ambiance familiale qui a été baignée par la compétition, par le dépassement et puis par l'aventure, la découverte de plein de choses. Donc voilà, ça m'a forcément forgé un état d'esprit, une façon de voir les choses, et c'est naturellement que je me suis porté à un moment vers la compétition moi aussi, et même si c'était dans un sport qui était très différent de celui de mes parents.
Ouais, parce que justement, qu'est-ce qui, à un moment donné, fait qu'on choisit ce sport-là en particulier ? Parce que vous le disiez, voilà, il y avait l'attrait de la mer, de l'élément, le plaisir aussi. Mais à quel moment on se dit, oh, c'est celui-là, je veux en faire ma vie, quoi ?
C'est en fait en 89. Donc je débarque en Guadeloupe, et l'année suivante, l'année de mes 10-11 ans, je vois arriver la Route du Rhum en Guadeloupe. Donc cette fameuse transatlantique, cette année-là, elle est gagnée par une femme, Florence Artaud en l'occurrence. Et voilà, moi, du haut de mes 10 ans, au bout du ponton, avec mon frère, on avait découpé des portraits de skippers dans le voile des voiliers, on allait à la chasse aux autographes, et c'est un sport que je connaissais absolument pas. Voilà, j'avais simplement vu à la télé le départ de Saint-Malo, et puis là, je voyais ces grands bateaux et ces grands marins arriver. Ils avaient traversé l'Atlantique tout seuls, sur ces engins de fou, et voilà, ça m'a fasciné. Et avec mon frère, on s'est dit, un jour, on fera ça, quoi. Et le mois d'après, on s'est inscrit dans un club de voile et on a commencé à faire de l'optimisme. Voilà, on était tout minots. Et puis, encore une fois, voilà, faire ce sport-là en Guadeloupe, c'est quand même assez facile. Il fait chaud tout le temps, il fait beau, il y a du vent. Et puis quand on a trop chaud, on saute du bateau pour aller se rafraîchir dans l'eau. Ça a commencé comme ça. Et puis, tout un groupe de copains, on s'amusait tous les mercredis et tous les samedis sur nos optimistes. Et puis, de fil en aiguille, voilà... On est monté, on a grandi, on est monté sur des bateaux de plus en plus grands.
Et puis de fil en aiguille, on gagne une médaille olympique, puis deux, puis trois.
Ouais, voilà, après, voilà, c'est... Alors, je ne vais pas dire que c'est un parcours normal, mais en tout cas, il y a une certaine logique. Après, je suis passé sur des catégories supérieures, sur des bateaux plus grands, sur des bateaux plus tactiques. J'ai pris goût à la compétition, je me suis accroché. J'ai aussi eu des bons entraîneurs, j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment qui ont su me faire progresser. Et puis voilà, et puis les choses se sont enchaînées. Et puis, comme tous les gamins, il y a un moment, j'ai rêvé devant mon poste de télévision, avoir des Carl Lewis notamment gagner des médailles d'or. Et on s'est tous imaginé à leur place sur un podium. Et j'ai eu cette chance incroyable d'avoir l'opportunité de faire les Jeux paralympiques. Mes premiers, c'était en 2004 à Athènes. Et puis de les gagner d'entrée de jeu. Donc ça, c'était génial, quoi.
La course large, ça, c'est à partir de 2005. C'était forcément la suite logique.
C'était la suite logique, oui, parce que je l'ai toujours eu dans un coin de la tête. Comme je disais, la route du Rhum, moi qui ai grandi en Guadeloupe, c'est quelque chose qui me faisait rêver. Tous les 4 ans, je voyais arriver ces bateaux-là. Je voyais des bateaux de plus en plus rapides, une technologie qui évoluait. Et puis toujours un homme ou une femme à la barre. Et ça, c'est quelque chose qui... Voilà, c'est quelque chose qui me fascinait. Et donc, j'ai toujours eu comme objectif d'un jour faire la route du Rhum. Alors, certes, j'ai fait du petit bateau, j'ai fait les Jeux paralympiques. Et quand j'ai eu l'opportunité de pouvoir lancer mon projet, ouais, j'avais 25-26 ans, je me suis dit, bon, bah, voilà, si tu veux faire un jour la route du Rhum, il faut t'y mettre. Sur quel bateau tu peux commencer à progresser? C'était le Figaro, voilà, tout simplement. Bon, mon entrée n'a pas été facile, hein. Ouais, elle n'a pas été facile, parce que même en sortant des Jeux paralympiques avec une médaille d'or, la Fédération française de voile et l'organisateur de cette solitaire du Figaro m'ont refusé la première année à cause de mon handicap. Donc ça aurait pu marquer vraiment un coup d'arrêt à mon rêve de gamin. Et bon, après, c'était sans compter sur mon caractère un petit peu tenace. Et donc... il a fallu que je remue ciel et terre, que je fasse des pieds et des mains, notamment. Ça donnera le nom à mon association par la suite. Mais pour faire changer un petit peu les règles d'accès à la course au large. Et voilà, ça a été un an de bataille et j'ai réussi à ouvrir les portes de ces courses-là l'année suivante. Et voilà, c'était une belle victoire déjà.
Qu'est-ce qu'on ressent quand on prend le départ de sa toute première course au large, qu'on arrive à concrétiser son rêve de gosse?
La première, je savais que j'étais scruté, hein, parce qu'effectivement, j'avais fait quand même beaucoup de ramdam autour du fait que j'avais été refusé l'année d'avant, et donc il fallait que je prouve que j'étais capable de faire ce sport-là en assurant ma sécurité et aussi celle des autres. Donc j'avais pas mal de pression, mine de rien, sur ces premières courses-là, et alors que j'étais assez inexpérimenté encore à l'époque. Et voilà, donc je me suis attaché à faire les choses bien, avoir des objectifs simples, pas trop parler de performance, mais juste de le plaisir de naviguer. Et puis, et ça s'est bien passé. Voilà, j'ai fait ma première transatlantique en 2006 et ma première route du Rhum en 2010. Et voilà, donc je parlais de 1990 quand j'avais 10 ans en voyant arriver cette route du Rhum. Et puis 20 ans après, moi aussi, je faisais ma propre route du Rhum et voilà, la boucle était bouclée. Quelle chance de pouvoir réaliser son rêve de gosse, quoi.
Et de faire briller aussi les yeux des autres.
Oui, parce que j'ai ouvert par la même occasion une certaine voie aussi. Voilà, j'étais le premier skipper avec un handicap à faire ce type de course au large. C'est ces courses qui font rêver plein de gens, mais qui n'étaient pas justement accessibles aux personnes avec un handicap. Donc voilà, il y avait aussi une forme de message dans mon parcours sportif, dans le fait que j'arrive à faire cette course. Ça a été le début d'une belle aventure aussi, parce que tout est parti de là. Après, tous les projets qui ont suivi sont partis de cette route du Rhum.
Notamment le Vendée Globe. Ça, on va en parler dans la deuxième partie de cette émission, Damien Seguin. On va faire une pause musicale. Alors, vous avez choisi Queen. C'est un groupe que vous écoutez sur les bateaux?
Ouais, c'est un peu mon groupe fétiche, et parce que j'aime bien l'énergie qu'ils dégagent. Toutes leurs chansons sont vraiment réfléchies, ont une musicalité un peu différente. Voilà, il n'y a pas de monotonie chez eux.
Et le titre, il a plein de sens pour vous.
Ouais, il a plein de sens, effectivement. C'est Don't Stop Me Now. Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive.
Shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go. There's no stop.
Sur ma route, Claire Le Parc.
Voilà le groupe Queen sur RCF en Bretagne pour la seconde partie de cette émission qu'on entame avec vous, Damien Seguin, toujours là sur ces sentiers du Bonneau. On peut décrire là, c'est très calme.
Ah ben voilà, il y a des coureuses à pied qui empruntent le chemin douanier aussi. Voilà, c'est très très calme. Il y a les bateaux qui sont au mouillage au milieu de la rivière. Et quand on reviendra sur nos pas, notamment, on a passé tout à l'heure, en sortant du port, le bateau Josua. Voilà, de Moitessier, le fameux bateau qui a gagné le premier tour du monde. On en reparlera sur le Vendée Globe. Mais voilà, il était là. Donc voilà, il y a des bateaux de légende dans ce golfe du Morbihan aussi.
Alors justement, parlons du Vendée Globe. Vous êtes le premier skipper avec un handicap à terminer, à prendre le départ, à terminer ce Vendée Globe à la 7e place. L'Everest des mers, c'est le Graal des Graals. Là, c'est pareil, c'est quand même assez énorme en termes d'histoire.
Ouais, bah c'est la suite que je voulais continuer d'écrire dans ma carrière. J'ai navigué sur toutes les grandes courses, Route du Rhum, Transat Jacques Vabre, en solitaire, en double. Et quand on progresse comme ça dans son sport, forcément, on essaye toujours de viser plus loin, de viser plus haut, de plus difficile. Et la course la plus mythique, la plus compliquée, la plus dure... Ça reste le Vendée Globe parce que c'est voilà, c'est un tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance. Voilà, c'est comme vous disiez, c'est l'Everest des mers, c'est un peu notre Graal à nous les marins. Et alors au début, c'est marrant parce que c'était pas un objectif parce que c'est une course qui me semblait trop dure, trop difficile d'accès. Voilà, faut trouver aussi des moyens conséquents avec des sponsors pour y arriver et donc c'est un objectif qui s'est construit finalement au fur et à mesure plutôt qu'un véritable objectif de carrière. Et j'ai eu cette chance de pouvoir faire mon premier Vendée Globe en 2020, alors une année assez spéciale avec le Covid, mais et voilà, une course magique parce que je naviguais moi sur un bateau assez ancien. L'objectif c'était d'être au départ et de se donner le maximum de chances de pouvoir voir l'arrivée. Et 80 jours après, voilà, je franchis cette ligne retour au Sable d'Olonne a une superbe 7e place. Donc
Alors vous l'avez franchi d'ailleurs déguisé en capitaine Crochet.
Ouais.
C'est bien des images.
Ouais, ça fait partie des images de ce Vendée Globe. Voilà, je voulais... Alors j'adore me déguiser depuis que je suis gamin. Et puis voilà, en terminant un tour du monde, qui d'autre que moi pouvait incarner le capitaine Crochet? Voilà, c'est le pirate marin qui a réussi... Et à qui il manque une main aussi. Donc voilà, j'ai franchi ce chenal déguisé comme ça. Et c'est resté une image assez, assez marquante pour tout le monde parce qu'on m'en parle encore aujourd'hui.
La preuve, je vous en parle. c'est aussi ça, finalement, c'est faire passer des messages à travers l'exploit, à travers l'humour aussi.
Oui, parce que j'ai la chance d'avoir eu un parcours de vie qui m'a permis de faire un peu tout ce que je voulais. J'ai réussi à transformer tous mes objectifs en une réalité, tous mes rêves de gamin en quelque chose de réalisable. Et ça a quand même de la valeur. Et je voulais absolument que mon parcours aussi puisse parler à d'autres personnes. Et voilà, moi, comme on en parlait tout à l'heure, j'ai eu la chance de grandir dans une famille exceptionnelle, de pouvoir réussir un certain nombre de choses. Et à côté de moi, je voyais d'autres enfants, alors pas forcément avec des handicaps, mais aussi des gamins avec d'autres difficultés dans la vie qui avaient du mal à trouver un sens à ce qu'ils voulaient faire. Et voilà, et c'était le message que je voulais passer, c'est que voilà, quand on rêve de faire quelque chose, quand on se donne un petit peu les moyens, quand on sait s'entourer, ben on peut y arriver. Et voilà, donc il y a forcément une sorte de militantisme aussi dans mon parcours, parce que j'ai relevé des combats pour faire valoir aussi le droit des personnes en situation de handicap. Et j'ai eu à un moment donné aussi le charisme de pouvoir soutenir ça. Et voilà, donc c'est un peu tout ce que je voulais écrire comme histoire avec mon parcours sportif.
D'ailleurs, je crois que c'est un message d'un enfant sur les réseaux sociaux qui vous a aussi permis à un moment donné de vous accrocher pour ce deuxième Vendée Globe qui était quand même compliqué. Hein. Vous avez parlé de délivrance à l'arrivée.
Ouais, ce deuxième Vendée Globe, il a été très difficile. Les conditions météorologiques ont été très compliquées dans le Grand Sud. Puis j'avais un bateau technologiquement assez abouti et qui était assez compliqué à faire marcher. Bon, bref. Et effectivement, dans le Grand Sud, au moment où je me dis, voilà, c'est vraiment dur. Alors, je pensais pas abandonner, mais j'étais dans une vraie difficulté. Et je reçois ce message d'un gamin qui, il dit, comme moi, tu fais partie des pas pareils. Alors déjà, le mot est assez bien choisi, c'est vrai. On est tous différents et nous, on est des pas pareils. Et en fait, voilà, il parle de... qui suit la course et qu'au final, c'est... Il a envie d'être aussi fort que moi, que ça a un vrai sens pour lui, mon tour du monde. Et voilà, ce message-là, en fait, il me transporte. Il me dit, mais voilà, moi, je suis en train de me plaindre sur mon bateau, je suis dans la difficulté. Et puis, en fait, ça m'a donné une force supplémentaire pour continuer, pour trouver les solutions, pour continuer et terminer ce tour du monde.
Et là, on pense au petit garçon qui rêvait devant Florence Artaud.
Oui, forcément, ça a fait écho sur mon propre parcours. Moi, j'ai eu des idoles, des marins ou des grands sportifs qui m'ont fait rêver étant petit. Et voilà, l'histoire s'est inversée. Aujourd'hui, c'est à moi de faire rêver les autres.
Alors justement, vous allez continuer à nous faire rêver, Damien Seguin, mais avec un autre projet, dans une autre catégorie. Vous passez en Ocean 50. Pourquoi ce choix ?
Alors, l'Ocean 50, c'est un trimaran de course au large aussi, de 50 pieds. Donc, un petit peu plus petit que l'Imoca. Mais un bateau, très rapide aussi sur l'océan. J'avais besoin de changer un petit peu de support après 8 ans passés en Imoca. C'est des bateaux géniaux, mais c'est des bateaux aussi très, très compliqués technologiquement qui demandent des gros moyens à une très grosse équipe. Et je voulais retrouver un peu plus de simplicité de navigation. Je reviens à mes premiers amours sur les multicoques. Et voilà, ça va être une belle aventure parce qu'il y a encore des superbes courses à réaliser, des routes du Rhum, des transats Café Laure, enfin bon, plein de choses.
On en revient à la route du Rhum, hein. Elle n'est jamais bien loin.
Non, elle n'est jamais bien loin parce que pour moi, c'est certainement la façon la plus lente de rentrer chez moi en Guadeloupe, mais c'est forcément la plus belle.
Et c'est aussi un projet multiple. Donc il y a la compétition, mais il y a aussi une volonté d'aller plus loin dans le partage. Et dans également l'inclusion. Alors ça passe par quoi ?
Ça passe par une association que j'ai créée en 2005, en fait les 20 ans cette année, de l'association des pieds et des mains, donc elle porte bien son nom. Moi j'ai fait des pieds et des mains pour réaliser mon rêve, pour accéder à la course au large, et voilà, ça a donné le nom à une association qui a bien grandi depuis, et elle a pour but de faire découvrir le monde nautique à des enfants ou des jeunes adultes qui sont atteints de handicap. Alors, on ne parle pas uniquement de handicap physique, on parle un petit peu de tous les handicaps. Et aujourd'hui, on est capable de faire naviguer sous forme de baptême qui dure 4-5 jours, plus de 400 personnes par an. Donc c'est une belle réussite. C'est un petit peu le prolongement concret de ce que moi, j'essaye de défendre sur mon bateau de course. Et voilà, ça a beaucoup de sens, beaucoup de valeur pour moi. Parce qu'il y a des bénévoles derrière cette association qui s'y engagent et des familles qui découvrent ce support-là. On a toujours considéré la voile ou les sports nautiques comme un milieu un petit peu dangereux pour des personnes qui sont en fauteuil notamment ou avec un handicap assez sévère. Alors que pas du tout, en fait, c'est un lieu d'évasion, un lieu d'expression. Et vous imaginez même pas, quand on prend un gamin, qu'on le sort de son fauteuil roulant et quand on le met dans un bateau, il découvre un autre moyen de locomotion. Et il a la banane jusqu'aux oreilles, ça fait plaisir.
Et vous l'avez comme vous le dites, Damien Seguin. Justement, c'est aussi aller plus loin dans l'inclusion, dans le sens où voilà, vous avez quand même ouvert une brèche avec les différentes compétitions, notamment sur le Vendée Globe. On l'a vu pour cette deuxième édition.
Ouais, voilà, c'était. En fait, je veux pas rester une exception. Je veux pas qu'on dise Damien, voilà, c'est le handicapé qui a réussi à faire de la voile, etc. Je voulais que mon parcours aussi, il inspire d'autres marins et que la porte que j'ai ouverte, un peu avec fracas en 2006, elle se referme pas derrière moi. Et là, je suis en train de vraiment de réussir mon pari. En 2010, j'étais le premier à faire la route du Rhum et 8 ans après, on était 4 personnes en situation de handicap au départ. Sur le Vendée Globe, en 2020, j'étais le premier. 4 ans plus tard, on était 2. Il y avait un Chinois qui avait quasiment le même handicap que moi. Donc, ça prouve que mon parcours, il a inspiré, il a montré que c'était possible. Et du coup, voilà, ça permet à ces gens-là aussi de se projeter et puis de venir challenger les valides sur ces bateaux-là, sur cette compétition-là. Donc, c'est génial. Je suis en train vraiment de gagner mon pari. Et ça, c'est une vraie réussite.
Ouais, parce que c'est ça aussi. C'est d'être au même niveau. C'est ce que vous souhaitez, vous, en tout cas. Il n'y a pas de... Voilà, vous vivez le même Vendée Globe.
Ouais. Et puis, c'est une des particularités de la voile. C'est un sport qui est génial pour ça, parce que toutes les compétitions sont entièrement mixtes. Hein. On ne parle pas simplement de hommes-femmes, mais c'est hommes-femmes, jeunes, vieux, valides, handi. Tout le monde est sur les mêmes types de bateaux, sur la même ligne de départ. Et comme c'est un sport mécanique, en fait, en modifiant un petit peu les caractéristiques d'accessibilité du bateau, au final, on se retrouve sur une compétition qui est finalement ouverte à tous.
Alors, il est où ce bateau? Il est là?
C'est le bateau rouge, voilà, Josua. C'est marqué en lettres noires sur le cockpit du bateau. Il est magnifique, hein, la coque rouge. Et voilà, un bateau de légende, le bateau de Moitessier, qui a fait le premier tour du monde, qui devait le gagner et qui finalement passera jamais la ligne d'arrivée pour continuer à vivre son rêve sur les océans. Et ce bateau a été restauré, il était là sur la semaine du golf, et il est magnifique. Et quand on voit ce bateau-là, la forme qu'il a, le type de mât, et quand on voit les bateaux sur lesquels on navigue aujourd'hui en compétition, ça a rien à voir. Mais voilà, il y a plus de 60 ans d'histoire entre les deux générations. C'est génial, c'est magnifique de le voir ici.
On sent que malgré voilà, tout ce que vous avez vécu et vos propres aventures que vous avez bien vécues, bien croquées, on sent que voilà, le petit garçon qui réveille, il n'est pas très loin. Quand même.
Non, parce que en fait, la voile, le monde nautisme comme ça, c'est quelque chose qui se vit au quotidien. Hier soir, j'étais avec un Vaurien de 1960 tout en bois, en train de pique-niquer au milieu du golfe du Morbihan, à revenir à la cale au moment où le soleil se couchait. Voilà, c'est aussi une façon de s'approprier la mer à sa façon, quoi.
Ce projet, on peut encore le soutenir. Voilà, on appelle peut-être les mécènes potentiels qui nous écoutent. Voilà, il faut boucler le financement.
Ouais, c'est un nouveau projet, effectivement. Et pour ça, j'ai besoin de réunir des nouveaux sponsors et des mécènes qui vont me rejoindre dans l'aventure, qui vont permettre de construire ce fameux nouveau bateau et puis de pouvoir participer à toutes ces belles courses. Donc voilà, si ça vous intéresse, le projet reste ouvert à tous. Et puis toutes les bonnes énergies sont les bienvenues à bord.
Damien Seguin, on va se quitter ici, voilà, sur le port du Bonneau, avec ce pont mythique juste au-dessus de nous. On s'est dit beaucoup de choses, mais on aurait pu continuer encore, hein, parce qu'il y a tellement à dire sur votre parcours. On est forcément pris par le temps, mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne finalement de vous, Damien Seguin? Alors, il y a des phrases marquantes que vous avez pu dire au cours de cette émission. Il y a aussi des phrases, je ne vous ai pas parlé de votre mantra, hein, ne remets pas à deux mains en deux mots, ce qu'on peut faire en une, c'est ça, si je me trompe.
Exactement, voilà, c'était le proverbe revisité. Il ne faut jamais remettre à deux mains ce qu'on peut faire avec une seule. Non, mais voilà, ce que j'aimerais qu'on retienne de moi, c'est juste l'image d'un passionné et de quelqu'un qui a dépassé un petit peu les limites qu'on pouvait lui accorder à un moment pour réaliser son rêve. Et ça a une valeur de dingue.
Merci, Damien Seguin.
Merci à vous. C'était une très chouette balade.
Retrouvez dans quelques instants le Jazz Club RCF. De ses tout débuts à son extrême fin, la vie ne cesse d'être interrogée. Chaque semaine, Où va la vie décrypte en écho à l'actualité toutes les questions éthiques que posent les avancées de la science et de la loi. Où va la vie, en partenariat avec les facultés Loyola Paris, présenté par Frédéric Mounier et Sophie de Villeneuve, c'est ce dimanche à 19h30. Écoutez RCF partout en Bretagne, en DAB+. Le Jazz Club RCF avec Gérard Guilleron.
Bonjour Jazz Club RCF, aujourd'hui on va vous faire découvrir John Abercrombie. John Abercrombie, on va vous faire découvrir Works. Vous venez d'écouter Red and Orange avec John Abercrombie à la guitare, John Hammer à l'orgue, synthétiseur, et Jack DeJohnette à la batterie. Abercrombie est un guitariste de jazz américain né le 16 décembre 1944 à Portchester dans l'État de New York et mort le 22 août 2017 à Cortland. Nous allons continuer avec Night. Vous venez d'entendre Night, donc composé par Abercrombie de 1984, avec John Abercrombie à la guitare, Ian Hammer au piano, Jack DeJohnett aux drums et Michael Brecker au saxophone ténor. Né à Porchester, John Abercrombie passe son enfance à Greenwich, Connecticut. Il apprend la guitare à l'âge de 14 ans. À l'époque, il est surtout attiré par le rock, en particulier par Chuck Berry, et son professeur de musique lui a fait découvrir le jazz. Nous allons donc continuer à découvrir ce guitariste avec ce morceau Ralph Piano Waltz. Thank you. Ralph Piano Waltz, John Abercrombie à la guitare, Jan Hammer à l'orgue et Jack DeJohnette aux drums. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer le 4 août 2016, exactement un an avant sa mort, au Jazz in Marciac. Il y avait donc Marc Copland au piano, Drew Grass à la basse et Joe Barron à la batterie. Fait un grand moment, une très belle rencontre. Or, j'ai eu un débat avec mon épouse qui voulait aller voir Ahmad Jamal et j'ai choisi donc Abercrombie. Et je ne regrette rien puisque c'est la seule fois où j'ai pu le rencontrer. Nous allons donc continuer avec Backward Glance, John Abercrombie en acoustique guitare, vous allez découvrir. Thank you. Backward Glance. Nous allons donc continuer avec John Abercrombie. Il a fait donc du jazz rock, du rock fusion, mais c'était pas forcément ses aspirations. Et donc il a été invité par le batteur Jack DeJohnette. Jack DeJohnette lui a permis à Abercrombie de réaliser son rêve de jouer dans un ensemble orienté jazz. À la même époque, le producteur de disques Manfred Eicher, fondateur et président d'ECM Records, je vous invite à aller voir le catalogue de musiciens sur ce label. Si vous découvrez le jazz, allez voir le catalogue ECM, vous allez trouver tout ce que vous avez à trouver. Donc, Eicher l'invite à enregistrer un album, et il a enregistré son premier album solo Timeless avec DeJohnette et le claviériste John Hammer, qui avait été son colocataire dans les années 60. Donc voilà, Jack DeJohnette rentre dans sa carrière jazz et il est resté toute sa carrière sur le label ECM. Nous allons donc clore cette émission aujourd'hui avec Sing Song, avec Abercrombie bien entendu à la guitare, Jack DeJohnette qui l'a emmené au jazz bien entendu, et surtout avec Dave Holland à la basse. Et je vous dis au revoir, à la semaine prochaine.
Chaque matin, les journalistes des rédactions RCF de Bretagne reçoivent une personnalité au cœur de l'actualité locale ou régionale. Décryptage singulier de la vie bretonne, de notre monde et de ses enjeux, mais aussi découverte d'un parcours, d'un engagement. Au cœur de la grande session d'information du matin, une rencontre quotidienne pour prendre de la hauteur avec bienveillance et pour donner du sens à l'actualité locale. L'invité de la matinale, c'est chaque jour à 6h35 et 9h01. Et aussi sur rcf.fr.
Retrouvez les émissions RCF en podcast sur les plateformes Apple Podcast, Google Podcast, Deezer et Spotify. Avec les podcasts RCF, écoutez vos émissions où vous voulez et quand vous voulez.
Faites un don sur rcf.fr. RCF, il est 18h.
Notre-Dame, RCF, Denise Dumoulin.
En ce dimanche 15 juin, nous voici à célébrer la Sainte Trinité, solennité qui vient après Pentecôte. La première lecture de ce dimanche sera tirée du livre des Proverbes au chapitre 8. Écoutez ce que déclare la sagesse de Dieu. Avant les siècles, j'ai été formé, dès le commencement, avant l'apparition de la terre. Je faisais ses délices jour après jour, jouant devant lui à tout moment, jouant dans l'univers, sur sa terre, et trouvant mes délices avec les fils des hommes.